Les rails des tramways, vestiges de la mécanique secrète des villes que révèlent ces coups déchirants. Une ville et des canons, la guerre industrielle, se dit-il. Il se reprochait de lui trouver, malgré l'horreur, une beauté puissante, rayonnant jusqu'à l'étouffement. Le déroulement de ces combats à distance évoquait en effet plutôt l'industrie que les anciens conflits. On faisait son travail autour des tubes en fer, au milieu des pyramides d'obus, avec application, régularité. Et là-bas, une ville s'effondrait dans la même poussière grise qui avait enveloppé son édification. Mais des milliers de cadavres joncheraient les rues. Cadavres éparpillés, surpris, si différents de ceux des vrais combats, serrés, roulés en paquets, les mâchoires grandes ouvertes pour le dernier allaitement. En face, l'artillerie alliée s'efforçait de ralentir les tirs de Mackensen, et ainsi, de temps à autre, un duel direct venait se substituer au pilonnage de la ville. Un matin, Augustin avait vu détruire une batterie serbe, pourtant dissimulée en lisière d'un petit bois. Les obus avaient éclaté sur les pièces, et sans doute les servants étaient passés directement du sommeil à la mort. À l'arrivée des ambulances, plus rien ne bougeait. On entendait le chant des oiseaux, et le vent jouant des feuilles de quelques bouleaux épargnés par le feu. Cette scène irréelle s'était inscrite pour longtemps dans la mémoire d'Augustin. De même les dernières paroles, recueillies quelques semaines plus tôt, de ce sergent de zouave surpris pillant une maison isolée dans la montagne et condamné à mort. Juste avant que la salve ne le couche dans un fossé sur le bord de la route, il avait dit à Augustin « Je ne fais pas d'histoire, monsieur le major. Qu'on vérifie seulement si je suis bien mort. » Et à l'aumônier dont il refusait les secours, « Rien à dire, monsieur le curé, Dieu nous punit du mal. » Le diable nous punit du bien, rien à dire. Après le coup dans la nuque, Augustin vérifia, les soldats remettaient l'arme à la bretelle et reprenaient la route, on fit passer à la queue de colonne l'ordre de l'enterrer au moment du bivouac. Ce jour-là, le temps était couvert, des feux, dans les vallées voisines, perçaient la brume, on avait vu sur les hauteurs des cavaliers bulgares, chaque heure était précieuse. Avec le petit artilleur qu'il avait amputé, cet homme d'humeur égale avait plu à Augustin. Tous n'étaient donc pas des enfants humiliés, tôt marqués par les premières gifles de la vie, s'arrangeant, et plutôt mal, de ce qui arrive. Ces derniers s'abandonnaient très vite et lâchaient prise, ou bien faisaient sur eux-mêmes les tristes efforts qu'il faut. Ils se voyaient ainsi, et Bussy et son père, et Alcossé peut-être, et même Klein parmi les fous, et la plupart de ceux qu'il avait connus et aimés. Les autres, heureusement ignorants animaux, on eût dit qu'ils n'avaient pas de soucis. Puis ce fut la retraite. Les Français se l'expliquèrent mal. Ils n'avaient presque pas vu leurs adversaires. Curieuse guerre, dans ces montagnes, avec trop de feintes et d'esquives. L'armée du voïvode Putnik se prépara à redescendre vers l'Adriatique par les défilés du Montengro et de l'Albanie. Le voïvode Putnik, les Français se moquaient de lui, le soir, autour des feux mais sans méchanceté. L'ordre vint de commencer le repli à une heure fixée dans la nuit, ni avant ni après. Le soleil disparut, les feux éteints, le régiment et le petit convoi d'ambulance furent plongés dans une ombre épaisse. Les soldats, auxquels il avait été défendu d'user de leurs lampes électriques, se sentaient seuls, isolés loin de tout, et chaque bruit dans la forêt leur faisait redouter, et espérer aussi l'ennemi invisible. Ils communiquaient en chuchotant. Cette guerre étonnante finissait dans un murmure. À la guerre, surtout dans les tranchées, dit à Augustin le chef du bataillon, on ne voit que ce qu'on fait. Le village mort de Kalukovo s'anima dans la nuit, sans ces exclamations qui accompagnent d'ordinaire le départ d'une troupe. On entendait seulement la basse continue des chariots, des ambulances, et parfois le claquement d'un fouet. Un juron aussi, quand des ombres se heurtaient. Augustin laissa partir le train régimentaire, qui devrait gagner le premier la gare de Strumnitsa, parce qu'il voulait voir, connaître l'impression d'être suspendu au-dessus des combats, entre l'affrontement et la retraite. Les hommes des sections de l'arrière-garde, prêts à quitter leurs tranchées, s'aperçurent soudain que la batterie qu'ils soutenaient n'était plus là. Un nouveau murmure, légèrement plus fort, parcourut la tranchée. Tout ce qui pouvait rouler était déjà ailleurs. Ils étaient les derniers. Ils étaient seuls. Le chef de bataillon, qui consultait sa montre toutes les 2 minutes, ne parlait pas. Énervés, plusieurs hommes pissèrent dans le boyau. Le silence retomba, troublé de temps à autre par un mot étouffé par le bruit d'une arme. Une sorte d'exaltation s'empara d'Augustin. Rampant sur le terre-plein, un éclaireur serbe se rétablit dans la tranchée devant le chef de bataillon. Couvert de terre, il tenait à la main son bonnet de laine grise. Ce détail amusa Augustin. On aurait dit un rabatteur devant les maîtres de la chasse. D'un bout à l'autre du boyau, les soldats se tournèrent vers l'éclaireur, essayèrent d'entendre ses paroles, mais il parlait trop bas. « Il faut s'en aller maintenant, les Souabes sont tout prêts. » À l'instar de tous les Serbes, il disait les Souabes, comme les Français les Prussiens. « Ce n'est pas l'heure, » répondit l'officier, saisi pourtant, comme ces hommes, par l'angoisse. Alors ils virent s'élever, à quelques centaines de mètres en face, des feux de Bengale qui donnèrent à la nuit une étrange couleur vermeille, et les premières silhouettes ennemies, qui leur parurent immenses, se découpèrent sur l'horizon. Ils ne criaient pas comme d'habitude. Ils ne couraient pas non plus. Ils avançaient sur eux régulièrement, se regroupant dans leur marche jusqu'à former une vague précédée de l'éclair des baïonnettes. Il restait quelques minutes, 10-20 peut-être. « On s'en va, » dit le chef de bataillon. Bondissant en arrière, les fantassins descendirent vers la plaine. Quand ils y eurent rejoint le reste du régiment, ils entendirent le claquement des mitrailleuses laissées sur place, et dont les servants devraient décrocher à la grâce de Dieu.